Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du Confort dans l'habitat avec Promotelec de cette saison 2019-2020. Nous allons aujourd'hui parler de chauffage électrique et je serais tenté de dire chauffage électrique 4.0. On va expliquer de quoi il retourne aujourd'hui. Pour cela, mes deux invités, Florence Delettre, directrice générale de Promotelec. Bonjour Florence.
Bonjour.
Et Yves Le Camus, secrétaire général du groupe Muller. Bonjour Yves.
Bonjour.
Le Confort dans l'habitat, parole à Florence Delettre, directrice générale de Promotelec.
Bonjour à tous, moi je suis ravie d'accueillir Yves Le Camus. Le chauffage électrique, Yves, on entend tout et son contraire, on entend qu'il n'a pas un bon rendement, on entend qu'il est polluant, on entend qu'il n'est pas compétitif, on entend qu'il est cher. Voilà, moi j'aimerais avoir un peu, pour y faire un peu la part des choses et d'avoir une vision un peu sur ce chauffage électrique, d'autant plus qu'on en entend beaucoup parler actuellement dans le cadre de du bas carbone, dans le cadre de développement durable. Voilà, quels sont les éléments que vous pourriez évoquer pour justement répondre à cette fausse image ou véritable image du chauffage électrique?
Le confort dans l'habitat, l'invité.
Alors Yves Le Camus, après ces propos d'introduction de Florence, première réaction à tout ce qu'elle a pu évoquer par rapport à cela?
Je suis un petit peu attristé parce que nous essayons depuis des années de dire que le chauffage électrique est très différent de cette image dévalorisante qui traîne dans les médias. Alors je suppose que c'est évidemment avec une idée très préconçue ceux qui la traînent, parce que soit ils sont anti-nucléaires, le chauffage électrique ayant été associé de bonne heure au nucléaire, soit, et là c'est encore plus peut-être dommageable à notre époque, ce sont des suppôts, je veux dire, des énergies primaires, en particulier du gaz et du pétrole, qui s'arc-boutent sur leur position forte, trop forte, et qui, évidemment, ont tout intérêt à désinguer, si je puis me permettre, le chauffage électrique et tous ces bienfaits que je suis prêt à décrire.
Ça, je pense qu'on va y venir, effectivement. Mais dans ce que vous évoquez là, vous dites finalement le chauffage électrique, il pâtit d'une mauvaise image à cause du nucléaire. Quand on parle de véhicules électriques, aujourd'hui, dans l'esprit des gens, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas cette question-là, en fait.
C'est une partie très étonnante. C'est que quand on parle de véhicules électriques, on associe évidemment cette électricité, en France au moins, à une énergie totalement décarbonée. Je me pose des questions pour savoir ce qu'est un véhicule électrique et le bienfait qu'ils apportent à la planète lorsqu'il s'agit de l'électricité allemande, par exemple.
Par exemple.
Par exemple, mais je cite au hasard.
Alors, ça me fait rebondir, Florence. Yves évoquait la notion d'une électricité décarbonée. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ?
Électricité décarbonée parce qu'en France, le contexte est assez particulier. On a la France à 85%, je crois, d'énergie nucléaire, le reste en hydraulique et 5 ou 6% autour d'autres énergies dites non propres. Donc oui, le chauffage électrique, c'était là aussi, hein, comme Yves Le Camus, il y a eu pas mal de détracteurs en accusant d'être un vecteur polluant, mais pour autant, la source du chauffage électrique en France, du moins, est propre.
D'ailleurs, je rajoute quelque chose, parce qu'en fait, il se trouve que peut-être certaines informations n'ont pas circulé jusqu'au grand public, mais j'ai souvent entendu parler du nucléaire comme étant carboné, comme faisant partie des énergies carboné, parce que les gens confondent un petit peu tous les problèmes, s'il y en a, du nucléaire. Et selon nos informations, il n'y aurait que 50% de la population qui croirait que l'énergie nucléaire est décarbonée. ce qui quand même est un grave problème d'information. La responsabilité à qui, je ne saurais pas dire.
Alors peut-être qu'il faudra que l'on fasse une émission dédiée à ce sujet. On va véritablement parler de chauffage électrique. Je le disais en vous présentant, Yves, vous êtes secrétaire général du groupe Müller. Le groupe Müller, ça représente quoi aujourd'hui en termes de marque, de production, de volume d'appareils ?
Alors le groupe Müller couvre plusieurs marques, dont les Noiro, Aplimo, Campa et Relec, entre autres. Ce qui fait que Müller en tant que tel est peu connu, même si depuis quelques années nous lançons une marque chapeau qui s'appelle Müller Intuitive, qui justement veut rassembler toutes ces marques et apporter un renouveau dans le chauffage électrique, en particulier en tenant compte du fait que, bien évidemment, l'électricité permet la digitalisation et nous fait entrer de plein pied dans ce que l'on pourrait appeler la maison intelligente, avec tout ce que ça ouvre, et on s'éloigne considérablement du simple problème de chauffage qui est parfaitement maîtrisé depuis quelques décennies. Et donc ce que disait Florence, parce que je pense qu'elle ne le prenait pas à son compte, est complètement dépassé. Le chauffage électrique aujourd'hui est un chauffage moderne, bien maîtrisé. Et évidemment, nous associons depuis toujours ce chauffage à une isolation, parce que nous pensons que l'isolation est quand même la base de ce que devraient être les habitats.
Tout à fait.
Et je suis prêt à rebondir sur les précaires, parce que bien souvent on assimile la précarité au chauffage électrique. On pourrait renverser le paradigme, c'est que en fait le chauffage électrique bien souvent permet de chauffer des gens qui sinon n'auraient pas les moyens de se chauffer. Alors ils se chauffent peu et mal, mais c'est d'abord leur logement qui pose problème.
Et donc sur ces produits que vous commercialisez, que vous fabriquez et commercialisez, on est sur quelle typologie de produits ? Des panneaux rayonnants, des appareils dits à inertie ?
Oui.
Toute la gamme d'appareils.
Donc on a fait d'énormes efforts en ce qui concerne les émetteurs, et nous maîtrisons parfaitement bien maintenant les émissions. Nous maîtrisons parfaitement aussi la répartition de la chaleur dans la pièce, parce que c'est un paramètre qui n'est pas souvent pris en compte, mais il est évident que pour bien chauffer, je parle évidemment de chauffage fixe, parce que depuis toujours, il y a un problème, une différence énorme entre un chauffage fixe adapté à une construction particulière, bien isolée, et un chauffage mobile qui souvent vient se rajouter parce que les chauffages principaux ne sont pas suffisants. Notamment, c'est le cas de la pointe, mais peut-être que Florence a quelques questions sur la pointe.
C'est partie des griefs portés parfois au chauffage électrique.
Oui, c'est partie des griefs. Il y en a parmi ceux que j'énonçais, il y avait ça aussi, en disant on ne pollue pas. Moi, je dis l'électricité polluait, mais là, on ne pollue pas. Et par contre, les détracteurs, à chaque fois, font le focus sur mais quand il s'agit pour le coup de mettre un petit peu plus d'intensité, un peu plus de chaleur, de mettre le thermostat, si je parle un peu comme le commun des mortels, le plus haut, on arrive vers cette fois avoir une obligation de recourir à d'autres sources d'énergie et donc de polluer. Donc voilà, il y avait en quoi aussi le chauffage électrique pouvait être considéré comme un vecteur polluant.
Sur ces volets-là, sur ces histoires de pointe, je pense que on est tous conscients aujourd'hui qu'il n'y a pas que le chauffage électrique, c'est véritablement le retour des occupants dans leur logement qui fait que, à la fois des modes de déplacement tels que les ascenseurs sur des immeubles collectifs, des éléments de cuisson du repas, parce qu'on est en fin de journée, et puis on a en France l'habitude, pour beaucoup de générations, de dîner devant le journal de 20h. Mais quand vous parliez, Yves, de digitalisation, justement, les appareils...
Je pourrais répondre aussi sur la pointe.
Alors, sur la pointe. Vous en mourrez d'envie.
Oui, parce que je pense que ça a toujours été un faux débat, Parce que la pointe, alors, évidemment l'ascenseur et puis le journal de 20 heures, c'est aussi bien en hiver qu'en été, et même en intersaison quand il n'y a pas de chauffage. Donc on ne parle spécifiquement que du chauffage. Mmh. D'accord. Il se trouve que, en général, en France au moins, en France continentale, il fait froid l'hiver. Je n'apprendrai rien à personne, mais...
Et ça se produit tous les ans.
Peut-être que cette année, ça ne va pas tellement se produire, parce qu'il fait tard et il n'a pas encore fait très froid. Mais donc, quand il fait froid, les gens ont tendance à se chauffer plus. Mmh. Alors d'abord, je voudrais faire remarquer, parce que ça, c'est oublié totalement, que la pointe, elle est aussi également en gaz. Et que la pointe gaz est 4 fois supérieure, au moins, à la pointe électrique. Donc, ce n'est pas... C'est un phénomène naturel que l'on chauffe quand on a froid.
Et qui montre que nos concitoyens occupent leur logement, et donc, en fonction de leur recours à une énergie, ils l'utilisent et...
Voilà, mais on ne parle jamais de la pointe gaz, parce que, en réalité... le problème électrique est surtout un problème d'approvisionnement, la peur du blackout qui, évidemment, en électricité, a des conséquences multiples et frappe directement, pas uniquement le chauffage, mais toutes sortes d'équipements de la maison.
De la vie et de la cité d'une manière
générale.
C'est
tout à fait sensible. Après, en ce qui concerne le contenu carbone, puisque c'était à ça que je faisais allusion, il faudrait peut-être regarder du côté de la pointe gaz, parce qu'il y a nettement quelque chose à faire. Du côté de l'électricité, avec nos appareils modernes, ça fait déjà un certain temps que nous avons la capacité de nous effacer les jours de pointe. Si le fournisseur d'énergie, enfin RTE, entre autres, nous demandait de nous effacer, il n'y a aucun problème pour le faire. Nous sommes en capacité de faire cycler nos installations et de garder le confort dans les pièces principales, par exemple. Donc le chauffage moderne n'est pas un problème. Le chauffage mobile est un problème.
On est d'accord, parce qu'il
n'est pas maîtrisé du tout. Je suis pour préconiser une tarification du fournisseur d'énergie en faisant 10 fois plus cher les jours de pointe que les autres. Bon, ça n'engage que moi.
Mais c'est une idée.
C'est une idée. De même qu'on pourrait avoir des tarifications qui favorisent les jours où il y a beaucoup d'électricité renouvelable, par exemple, de faire moins cher, par exemple.
Mais pour revenir sur cette notion d'effacement, ça veut dire que...
J'ai plusieurs idées comme ça pour Monsieur Lévy.
il faudra lui soumettre d'une façon ou d'une autre. Juste, je voudrais revenir sur cette notion d'effacement pour que ce soit très clair pour nos amis auditeurs. Ça consiste à ce que, dans un logement, les appareils puissent... en fonction d'une consigne qu'on leur donne d'acceptation d'un effacement, se dire qu'ils vont réduire leur mode de fonctionnement pour à la fois garantir le confort et unitairement diminuer quelque peu la consommation du logement, qui, multiplié par le nombre de logements, fait qu'on arrivera à faire une économie qui soit significative sur le réseau.
Oui, déjà au sein d'un logement, on peut conserver une ambiance relativement confortable dans les pièces de vie. Et puis diminuer la fréquence de chauffage ou le degré de chauffage, ça dépend de quel côté on le prend, dans des pièces plus ou moins inoccupées, des chambres ou des choses comme ça.
Donc finalement, avec la notion de la digitalisation que vous évoquiez tout à l'heure, le chauffage devient acteur du fonctionnement du logement. C'est-à-dire qu'il ce n'est plus qu'un simple émetteur qui rend une fonction, il interagit avec son environnement.
C'est tout à fait ce qu'on pourrait appeler un début de maison intelligente. Bon, ça fait déjà un certain temps que le chauffage électrique permet ce genre de choses. Mais évidemment, quand on commence à parler de digitalisation, on voit qu'on entre tout à fait dans un monde très nouveau, dont on n'a aucune idée des conséquences. Mais moi, j'ai tendance à dire que le chauffage électrique, par sa légitimité de se trouver dans chaque pièce et de capter chaque ambiance, permet d'avoir une maîtrise de son logement, d'un certain nombre de flux dans ce logement, et d'être ce que j'appelle le réseau neuronal de la maison intelligente. Donc, je vous laisse phosphorer sur tout ce que l'on peut imaginer ensuite que peut apporter ce réseau neuronal pour maîtriser et se combiner à d'autres éléments de sécurité, d'alarme, que sais-je, pour faire en sorte que votre maison vous apporte des choses nouvelles. Je dirais que, si je peux juste faire une petite plaisanterie que j'ai l'habitude de faire, c'est que jusqu'à présent, nous avons des rapports avec notre habitat qui sont voisins de celui ou de ceux de l'homme de Néandertal. C'est-à-dire que quand on quitte sa grotte, on n'est pas bien sûr de retrouver celle-ci en bon état et sans avoir eu des visiteurs, etc. Mmh. Donc on n'a aucune information ou peu d'informations sur celle-ci quand on part. Au jour du chauffage électrique moderne et de certain nombre d'autres éléments, on est capable de surveiller et d'avoir une intimité avec son logement qui est tout à fait régulière, présente. On peut avoir des alarmes même quand on n'est pas là. Enfin, il y a énormément de choses qui font qu'on rentre dans quelque chose dont, encore une fois, nous n'avons pas tout à fait l'idée. Alors, je pense que... bon, je ne vais pas faire de développement futuriste.
Oui, mais en fait, au-delà de tout cela, il y a certainement des éléments de la R&D du groupe Muller qui transparaissent dans votre propos, mais c'est véritablement au travers de ce que vous dites, le chauffage électrique aujourd'hui, c'est vraiment le gage de la modernité d'un logement. Modernité dans le confort apporté, modernité dans les usages qu'il donne et qu'il peut amener de façon connexe. Et puis, c'est aussi le volet environnemental, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le choix que de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et au regard de ce que l'on évoquait tout à l'heure, la typologie de l'électricité produite en France, on a quelque chose qui est sobre en termes d'émissions de CO2.
Sans compter que, bon, évidemment, il y a l'électricité de réseau. Mmh. Mais il y a tout le solaire qui fonctionne aussi tout à fait bien avec notre système.
On va être sur une chaîne alimentaire. On va être sur une chaîne de distribution courte.
Si vous avez remarqué, mais la nuit, le solaire, des fois, ça ne marche pas bien.
Moins bien, oui.
Qu'on a besoin de faire appel à des facultés d'accumulation, mais aussi au réseau. Enfin bon, il y a toute une combinaison naturelle qui doit se faire entre la production locale et la production, disons, centralisée, venant notamment d'EDF.
Donc là aussi, l'intelligence à la fois des réseaux et l'intelligence embarquée dans les appareils permet de gérer cela de façon optimale et optimisée.
Et optimisée en tenant compte d'un maximum d'informations venant d'un petit peu partout, comme de la météo par exemple.
Alors, lorsque l'on parle de chauffage électrique, on va essayer d'être court parce qu'on va bientôt arriver au terme de cette émission. Lorsqu'on parle de chauffage électrique, il faut aussi penser à la production d'eau chaude sanitaire.
Oui.
Clairement, aujourd'hui, les solutions vertueuses de production d'eau chaude sanitaire d'origine électrique, ça se traduit par quoi au sein du groupe Muller ou d'une manière générale ?
Nous avons développé tout un secteur de pompes à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique, voilà, merci. Qui fonctionne parfaitement bien avec le chauffage électrique et qui nous permettent en partie de rentrer dans les contraintes de la RT 2012, cette réglementation absolument aberrante et anti-écologique au possible, que nous espérons bien pouvoir faire modifier, parce que je pense que très naturellement, compte tenu des engagements gouvernementaux et de la loi sur la transition énergétique, il faudrait favoriser très fortement l'électricité dans l'avenir. Et je pense que à terme, toutes les maisons fossiles devront disparaître.
Inverser le vecteur énergétique.
Non, mais elles sont fossiles dans la mesure où elles utilisent des énergies fossiles. Si on les transforme, évidemment, elles sont en mutation électrique.
Et donc décarbonées.
dans le cas de la France, évidemment.
Bien entendu, tout à fait.
Non, mais parce que je dis pas l'électricité. Il y a certains pays, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a beaucoup, encore beaucoup, dont l'électricité est faite à partir de tourbe, à partir de même de gaz, ce qui déjà est un moindre mal, mais enfin.
Qui pollue malgré tout.
Qui pollue malgré tout.
On va arriver au terme
de... En France, il ne reste plus beaucoup. Si, dans ma région, il reste une centrale à charbon.
Qui va bientôt disparaître. On va, chers amis auditeurs, arriver au terme de cette émission. Et avant de laisser le mot de conclusion à Florence Delettre, je rappelle juste que vous pourrez trouver sur le site internet de Promotelec, www.promotelec.com, des éléments relatifs aux aides gouvernementales pour le changement de radiateur électrique, dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais vous trouverez cette actualité qui peut être intéressante sur le modèle économique. Merci à tous et de suite la conclusion de cette émission par Florence Delettre.
Le confort dans l'habitat, parole à Florence Delettre, directrice générale de Promotelec.
Merci Yves pour tous ces propos. Moi, je retiendrai que bien évidemment, le chauffage électrique, il a considérablement évolué par rapport à ce que je disais en guise d'introduction, que maintenant, il est performant, il est rentable, il est vertueux, et puis vertueux aussi dans le contexte dans lequel on se situe, il n'a pas d'émissions de CO2. J'insiste aussi sur le prix. Puisque c'était un des reproches que l'on lui faisait, que je mentionnais au début, quand on consomme bien, on consomme forcément mieux, et en plus, la facture n'est pas pour autant multipliée par deux. Donc, le chauffage électrique est le seul vecteur qui permet de répondre aux exigences environnementales et qui apporte un confort absolu.
Merci Yves Le Camus, merci Florence Delettre, et à très bientôt pour de nouvelles émissions du Confort dans l'Habitat avec Promotelec.
Le Confort dans l'Habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.